Merci de m'avoir invité à discuter le livre de Violaine. Ça m'a d'abord été une occasion de le lire. Voilà, je suis désolé, je l'avais pas lu. Je l'avais acheté, mais je l'avais pas encore lu. C'est partie des choses à lire. Voilà, je l'ai fait, donc je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Voilà, je le disais tout à l'heure à Violaine, j'ai eu une critique. Une critique à faire, je vais la faire d'entrée, comme ça on n'en parlera plus. C'est le titre. Bon, le titre de ce livre me semble, comment dire, contestable. Non pas parce qu'il ne parle pas du vote FN au village, mais parce qu'il me semble que c'est ce titre, ce parti pris de focalisation sur le vote et sur le vote FN restreint finalement la portée et l'intérêt d'une enquête dont il me semble qu'elle dépasse très très largement cette question, qui n'est pas anecdotique certes, mais enfin bon, voilà, qui me semble réduire en tout cas la portée et l'intérêt de son travail. Alors, au fond, tout ce que je vais dire en découle d'ailleurs de cette observation première, au sens où ce que mon commentaire va consister à redire ce que vient de dire très bien Violaine, donc je risque de faire moins bien, mais je vais le faire un peu différemment. Je vais le faire un peu différemment au sens où j'ai une espèce de mise en ordre qui me semble plus conforme, plus conforme en tout cas à ce que je viens de dire, et plus conforme aussi, il me semble, par rapport à l'ensemble des matériaux recueillis. Alors je le ferai en deux points. Je parlerai d'abord, parce qu'il me semble que c'est de ça que parle le livre, de la question de la désagrégation, ou même si on veut, de l'émiettement des classes populaires, donc une question de portée sociologique tout à fait générale et qui me semble importante. Et ensuite, autour d'un deuxième point, où on parlera un petit peu du FN quand même, sur les luttes de classement au sein des classes populaires. Alors, d'abord sur l'émiettement des classes populaires, je voudrais faire trois séries de remarques. La première, je les extrais, j'invente rien, je ne fais que de redire ce que dit Violaine dans ce livre. Bon, premier point, donc, c'est au fond les effets de cette politique d'incitation à l'accès à la propriété depuis les années 70. Bon, je pense que son livre montre très très bien les multiples effets qui ont à voir avec ce que j'ai appelé désagrégation, évidemment, des classes populaires. C'est facile à comprendre, il suffit d'en tirer les conséquences, quoi. Elle rappelle qu'à la fin des années 80, un ouvrier sur deux est propriétaire de son logement. Bon, mais enfin, je crois que il faut tirer les conséquences de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, un ouvrier sur deux propriétaire de son logement. Ça veut dire d'abord une certaine forme d'atomisation spatiale des familles, leur dispersion géographique, dans l'espace géographique, en tout cas plus que dans une barre ou dans une tour, c'est assez trivial. Donc dispersion dans l'espace résidentiel des classes populaires. Le deuxième aspect, la deuxième conséquence de cette politique d'incitation à la propriété, c'est aussi la constitution d'un patrimoine économique familial à entretenir, à grandir et à transmettre. C'est aussi l'accès au statut de propriétaire. Bon, avec toutes les conséquences, je crois que ça comporte. En tout cas par rapport à des familles qui se caractérisaient justement essentiellement par le fait qu'elles n'avaient pas de patrimoine économique. Elles avaient leur force de travail à vendre, elles n'avaient que leurs bras, disait-on. Voilà. Troisième conséquence, je crois, c'est plus dans l'ordre plus symbolique qu'économique, c'est l'aspect de valorisation, finalement, de ce qui est individuel. Bon, du pavillon, comme symbole même de la réussite sociale. Donc avec aussi, si le pavillon est le symbole de la réussite, ça veut dire que l'habitat collectif, l'habitat social, se trouve de ce fait même dévalorisé, ne serait-ce que parce qu'il s'oppose à l'autre. Il devient un espèce de symbole de déclassement par rapport à ceux qui ont réussi justement à une promotion sociale, le pavillon étant un indicateur de promotion. Donc c'est aussi dévaloriser les grands ensembles, comme on disait antérieurement. Voilà. C'est aussi, enfin, un instrument de disciplinarisation au travail. Oui, ça fonctionne aussi comme ça, quoi. C'est pour faire construire, il faut s'endetter, il faut aller auprès de la banque, il faut s'endetter lourdement et pour longtemps, à long terme. Ce qui impose évidemment une très forte contrainte par rapport à l'investissement, à l'implication au travail. On ne peut pas se faire virer quand on a pris 15 ans de crédit ou 25 ans de crédit sur les bras. Voilà, premier aspect donc de désagrégation, d'émiettement des classes populaires liées à cette politique réussie, d'accès à la propriété. Deuxième aspect que retrace est également Violaine dans le cas particulier de la vallée de la Rivoire, c'est, je ne connais pas moi, c'est l'évitement parallèle des collectifs de travail. C'est, bon, alors là aussi, je pense que il y a des choses assez connues, mais enfin bon, voilà, c'est important de les voir, vous voyez, se réaliser concrètement sur un lieu ce que fait, ce que montre Violaine. Bon, l'émiettement des collectifs du travail, bah, vous connaissez, bon, tout le monde connaît ça, les stratégies patronales de destruction de bastions ouvriers, à la fois par les délocalisations, les politiques de délocalisation hors de l'Hexagone. Hein, bon, dans les autres pays d'Europe ou plus loin encore, quoi. Bon, on expatrie des bouts entiers de collectifs de travail, ou sinon de collectifs en entier d'ailleurs, très loin, ailleurs, dans le monde. Bon, mais aussi, et c'est ce que montre très bien Violaine, c'est aussi une politique, on pourrait dire, de délocalisation au sein même de l'Hexagone. Hein, c'est tout l'ensemble des politiques généralisées de la sous-traitance. Bon. Bah, la sous-traitance, ça donne des effets hein, qui impliquent, voilà, quand on sous-traite des activités d'une grosse entreprise, bah, ça implique la démultiplication hein, de ces entreprises, la multiplication des employeurs et l'éclatement corrélatif des collectifs de travail. Hein, je sais pas, bah, souvenez-vous, enfin moi je suis assez vieux pour m'en souvenir, quoi. Bon, la forteresse Billancourt détruite, c'est pas rien, quoi. Vous voyez, c'était aussi une mesure pratique, mais c'est aussi bon, une mesure symbolique extrêmement forte, quoi, hein, c'est détruire ce qu'on appelait la forteresse ouvrière, et c'était vrai de toutes les forteresses ouvrières. Donc c'est aussi à travers ça faire table rase du passé collectif des groupes ouvriers constitués, c'est contourner ces forteresses ouvrières. C'est aussi, on va sous-traiter, délocaliser, etc., à l'intérieur de l'Hexagone, mais pas n'importe où, quoi. On va aussi délocaliser dans des zones rurales ou périurbaines, quoi. Bon, on va installer les ouvriers à la campagne, quoi, grosso modo, quoi. Hein, bon. Ce qui veut dire, c'est aussi, ça porte à conséquence, ça veut dire des lieux où il y a, de façon générale, une absence de tradition syndicale ouvrière, bon, ouais, il n'y a pas ça. On sait d'ailleurs aussi, c'est une autre conséquence de la sous-traitance, que la présence syndicale décroît avec la taille des entreprises. C'est une des lois de la sociologie du travail tout à fait élémentaire et bien connue. Bon, sans compter la répression anti-syndicale au besoin qui redouble les effets spontanés, sociologiques spontanés en quelque sorte, de la désyndicalisation liée à la taille des entreprises. Bon. C'est aussi des zones où, Violaine le raconte, il y a un espèce de maintien qui dure plus longtemps qu'on pourrait croire, des petites exploitations agricoles, avec aussi, entretenant voilà, des ouvriers qui vont toujours au champ, quoi, bon, hein, et donc un rapport distant, spécifique aux salariés ouvriers de ces ouvriers ruraux. Bien. Enfin, dans le même ordre d'idée, l'émiettement des collectifs de travail, c'est aussi, on le sait par ailleurs, quoi, mais c'est des phénomènes très généraux, la banalisation de l'intérim, des contrats à durée déterminée, qui implique bah, des divisions statutaires hein, au sein des collectifs ouvriers de taille réduite qui restent encore aujourd'hui, avec une division tout à fait centrale au sein de ces collectifs ouvriers entre les ouvriers stables et les ouvriers précaires. Bon, plus ou moins précaires, bien sûr, mais enfin quand même, quoi. Voilà. Or, on sait, là encore, que l'instabilité professionnelle nuit à l'engagement des salariés. Voilà, plus on est précaire, plus on est instable, moins on sera syndiqué. C'est pas très difficile à comprendre. Voilà. D'où aussi, bon, les craintes perpétuelles à travers le chômage de masse, la précarisation, les craintes perpétuelles de perte d'emploi, donc aussi le reflux de la combativité ouvrière, etc. D'où, donc, de façon générale, l'émiettement des collectifs de travail, l'affaiblissement des organisations syndicales et du sentiment d'appartenance au collectif ou à un collectif, la classe ouvrière, on dit autrefois, quoi. Bah, d'autant moins que voilà, elle est de moins en moins visible et de plus en plus en morceaux, etc., pour les raisons que je viens de dire. Troisième, dans le même ordre d'idée, le troisième facteur que met en évidence Violaine dans le cadre de son enquête, facteur donc de désagrégation, d'émiettement des classes populaires, c'est aussi les divisions internes aux salariés ouvriers qui sont liées à la complexification, c'est une chose moins connue peut-être, hein, à la complexification des hiérarchies de qualification associées à l'emploi industriel. Bon. Alors, s'y renvoie, bien sûr, aussi aux formes de scolarisation à destination ouvrière et technique. Bon. Voilà. Donc, elle rappelle, et ça me semble important, les effets propres de la croissance des effectifs de techniciens et de contremaîtres aussi. Et donc, l'existence, en fait, hein, bon, maintenue d'une filière de promotion ouvrière qui existe hein, dans ce monde même des ouvriers. Ça, on parle constamment du déclassement, ce qui existe, c'est bien réel, etc. Mais enfin, il y en a aussi une autre, hein, une espèce d'échappatoire, en quelque sorte, qui existe vers le haut et qu'elle a le mérite de rappeler, quoi. La filière donc technique de promotion en fait continue hein, d'employer d'occuper un rôle tout à fait notable dans cet univers. Voilà, à ça, on pourra encore ajouter quelques autres clivages, quelques autres lignes de clivage hein, au sein de ces classes populaires, de ce monde ouvrier. Bon, qu'elle signale entre les ouvriers qualifiés et les non qualifiés, c'est pas une nouveauté, mais enfin bon, voilà, ça s'est pas arrangé en quelque sorte avec ce que ça implique. Hein, la perpétuation de ce clivage entre qualifiés et non qualifiés, et puis même au-dessus, contremaîtres techniciens d'une voie de promotion, ça veut dire aussi des possibilités de promotion qui continuent d'exister dans ce monde ouvrier, donc aussi la concurrence. Pour la promotion, donc aussi l'émiettement, parce que là où il y a de la promotion possible, il y a de la concurrence pour la promotion, donc etc. Là encore des rivalités et tout ça. Deuxième aspect encore que je voudrais ajouter, c'est les clivages de génération hein, au sein de ce monde ouvrier. Alors, clivage de génération qui renvoie, je crois, à l'existence de modes de génération, justement, différenciés au sein de ce monde ouvrier, c'est-à-dire différentes façons hein, de devenir ouvrier, qui sont liées aux transformations du système scolaire, en particulier de la modification hein, des filières d'accès aux positions ouvrières, liées, d'une part, à des modes de scolarisation différents, et aussi, bon, à des conditions d'accès spécifiques, hein, des jeunes ouvriers d'aujourd'hui qui doivent entre autres poireauter indéfiniment de stages en intérim, d'intérim en CDD, dans l'espoir très très lointain d'un CDI peut-être vers 30 balais. Quoi. Bon, voilà, donc c'est aussi vous voyez, un mode, une façon de devenir ouvrier quoi, bon, qui est aussi très différente et qui crée sans doute aussi des clivages d'ouvriérisation, pourrait-on dire, hein, au sein de ce monde ouvrier. Voilà, on pourrait enfin parler, d'ailleurs, dans cet ordre d'idées, de l'extension du salariat féminin dans le monde ouvrier et dans le monde employé, qui crée là aussi, sans doute, à mon avis, des transformations internes hein, à ce salariat subalterne, pour reprendre le vocabulaire de Schwartz, qui me semble aussi important. Voilà, donc ça, c'est le premier aspect qui me semble voilà, très fort, très intéressant, que met en évidence Violaine, non pas parce que ce soit des découvertes bouleversantes, ce n'en est pas, mais ce qui est, à mon avis, une découverte très intéressante, c'est de montrer comment ça fonctionne. Voilà, comment ça fonctionne concrètement dans le périurbain, ça veut dire quoi tout ça quoi, vous voyez, comment ça s'incarne, en quelque sorte, et ça, elle le montre excellemment, ça me semble tout à fait important, ne serait-ce que parce que ce sont des phénomènes qui portent à conséquence et dont il est bien d'essayer de tirer les conséquences. Ce que je vais essayer de faire dans le deuxième point de cette façon de restituer le travail de Violaine. Je l'ai intitulé donc les luttes de classement au sein des classes populaires, parce qu'il me semble que c'est effectivement un deuxième angle d'approche qui me semble tout à fait intéressant, qui dérive évidemment assez directement de ce que je viens de dire. S'il y a émiettement hein, et désagrégation de ces classes populaires, bah, ça veut dire aussi que là-dedans, ouais, hein, il y a des luttes. Il n'y a pas que des luttes. Lutte de classe, c'est pas juste entre le haut et le bas, les dominants et les dominés. Il y en a d'autres quoi, au sein même hein, des dominés, au sein des classes populaires. Je crois que c'est un des grands mérites du travail de Violaine, aussi de montrer très concrètement comment ça se passe. Quoi. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Comment ça porte à conséquence au sein des classes populaires. Alors je vais le faire en 4 points, non 5 même, voilà, parce que je parle un tout petit peu du vote FN, un tout petit peu, in fine, quoi, parce que ça me semble être un des aspects, voilà, de ces luttes de classement au sein des classes populaires. Alors 5 points. Le premier, le premier le plus évident que, voilà, là aussi, évident, mais enfin c'est intéressant de le voir concrètement, que ça donne quoi, comme effet concret, c'est le clivage hein, qui n'a cessé de se creuser au sein de deux fractions au sein des classes populaires. L'une donc qui est soumise sur le long terme à la précarité professionnelle, résidentielle, conjugale, etc. Hein, liée très souvent aux faibles qualifications. Bon, moins on est qualifié, plus on a des chances de se retrouver précarisé durablement. Aussi, mais aussi, elle le signale, Violaine a la raison, aux accidents de parcours matrimoniaux. Quoi. Les séparations, c'est pas bon. Quoi, hein. Bon, voilà, c'est aussi une façon de se retrouver du mauvais côté, précarisé. Des classes populaires. Donc d'un côté, donc une fraction précarisée, de l'autre, eh ben, celle qui a accédé à la stabilité, celle qu'elle étudie, d'ailleurs, hein, celle qui est centrale dans son enquête, ce qu'on retrouve ici, des ouvriers stabilisés, établis, si on veut, stabilisés professionnellement, résidentiellement, conjugalement, voilà, qui sont, comme dit Olivier Schwartz, des subalternes, mais non démunis, quoi. C'est le haut, quoi. Bon, hein, c'est le haut des classes. La fraction haute des classes populaires, sans pour autant passer de l'autre côté, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, sans pour autant basculer de l'autre du côté des classes moyennes. Voilà. Donc au fond, de ce point de vue-là, on s'aperçoit que sans doute une des façons, un des critères voilà, de séparation entre ces deux mondes, le haut et le bas des classes populaires, c'est sans doute le statut de propriétaire, sans doute un espèce de critère objectivé, de ce que c'est que la démarcation entre le haut et le bas des classes populaires, parce que l'accès à la propriété, c'est l'indicateur par excellence de la promotion, quoi. Voilà, c'est la réussite sociale relative. Voilà. Bien. Deuxième aspect qu'elle met en évidence, alors ça c'est, je crois, beaucoup plus original et à mon avis tout à fait intéressant, c'est, au fond, ce qu'elle montre aussi, c'est une espèce de cohésion morale de ces ouvriers pavillonnaires, ou de cette frange établie, ou cette fraction établie des classes populaires. Au fond, ce qu'elle montre aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler une conscience de classe, voilà, ou une conscience de fraction de classe, qui me semble propre à ce monde-là. Alors elle montre sous ce rapport comment la sociabilité locale, justement, hein, les pavillonnaires, on pense qu'ils sont tous éclatés, émiettés, etc. Bon, chacun chez soi et du pour tout, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle montre quand même que tous ces gens-là voilà, réussissent à constituer une forme de sociabilité locale spécifique, ne serait-ce qu'à travers la propriété, justement, la construction. Hein, c'est aussi le recours fréquent au soutien matériel de la famille élargie, des voisins, etc. On se donne des coups de main, machin, etc. Ce qui fait qu'on a des amis, quoi. Bon, ouais, des collègues, des voisins, etc. Bon, donc on crée, en quelque sorte, dans ce monde-là se recrée un réseau d'interconnaissances locales, sans compter tout ce qui va avec, quoi. Bon, les loisirs sportifs, on parlait tout à l'heure, Violaine, mais aussi les participations associatives multiples via les enfants. Hein, par exemple, ils sont tous aux parents d'élèves. Nous, c'est frappant dans l'enquête à laquelle on a participé, elle et moi, de la NR Classe Populaire. Moi, j'étais vraiment stupéfait de voir la présence de ces familles ouvrières dans les associations de parents d'élèves. Voilà, bon, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, alors tout ça, bon, je crois, de regarder comme elle le fait de très près, implique, je crois, quelque chose comme une forme d'éthos partagé. C'est pour ça que je crois que bon, c'est peut-être pousser un peu loin le bouchon de parler d'une conscience de classe, mais enfin, après tout, jusqu'à un certain point, quoi. En tout cas, au moins un éthos partagé, alors qui est lié, je crois, à des choses comme la promotion individuelle, c'est important, la valorisation de l'effort. Du mérite, on croit à toutes ces choses-là, quoi. Faut se défoncer, puis si on veut, on peut. Voilà. Hein, des valeurs familiales et conjugales, parce que, voilà, elle montre aussi, Violaine, c'est important, combien la mobilisation est familiale et combien le salaire féminin en particulier, donc aussi la stabilité conjugale, c'est important pour pouvoir remplacer l'emprunt, etc. Donc voilà, on a une famille stable comme il faut, quoi. Bon, voilà. Qui encadre ses enfants, ça va avec, quoi. Hein, on s'occupe des mômes comme il faut. Bon, voilà. Donc, promotion individuelle, valorisation de la famille, du couple, de l'éducation des enfants, etc., qui implique aussi une espèce de dévaluation corrélative de tous ceux qui sont l'envers de ça, quoi. Hein, de l'instabilité professionnelle, l'instabilité conjugale, machin, etc. Tout ça, c'est pas bien, quoi. Bon, voilà, puisque c'est l'envers, quoi. Hein. Bon, ça a à voir, je crois, avec ce que Rothier appelle capital d'autochtonie, quoi, au fond, c'est-à-dire cette espèce de capital symbolique à base locale, quoi, hein, qui fait que bon, on est quelqu'un de bien, parce que les voisins pensent qu'on est quelqu'un de bien. D'ailleurs, on leur rend en disant qu'ils sont bien aussi, les voisins. Bon, voilà. Donc, on se construit une identité de gens bien, respectés, comme il faut, quoi. Voilà. Et ça s'appelle, je crois, quelque chose comme un éthos, vous voyez, sinon un éthos qui va être au fondement d'une conscience de classe. Voilà. Bon. Alors, troisième point. Le troisième point, c'est la double stratégie distinctive que met en place cette fraction établie des classes populaires, et qui va être encore plus, qui est au principe même là de la Constitution, comme quelque chose qui ressemble de plus en plus à une conscience de classe. J'y viens, quoi, hein, petit à petit. Alors, d'une part, on pourrait dire que si le centre, c'est ce que je viens de dire, la quête de respectabilité, la façon d'assurer collectivement sa respectabilité, ça implique deux conséquences qui me semblent importantes. Une qui est bien connue, à vrai dire, c'est, je l'ai déjà évoqué rapidement, je vais revenir un peu plus en détail, mais Violaine le fait aussi, c'est la démarcation, les stratégies de distinction, de démarcation par rapport aux familles précarisées. Voilà. Bon, celles qui ne sont pas précarisées, sinon racisées, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire celles qui sont l'envers de ce qu'on aspire à être. Bon, alors, problème, c'est quoi les critères d'appartenance à ce sous-ensemble des familles précarisées ? Bah, ça a à voir avec le statut résidentiel, alors c'est flou, hein. Enfin bon, en gros, quoi, c'est plus du côté du monde des cités plutôt que du monde des pavillons. Un critère ethno-racial, c'est plutôt des immigrés. Parce que, bah, s'il n'y a que des immigrés, mais quand même, il y en a un certain nombre, quoi, enfin, il y en a plus qu'ailleurs. Un critère social, sociologique, professionnel, c'est les travailleurs précarisés, les chômeurs, a fortiori. Donc aussi, voilà, les bénéficiaires d'aide sociale. Hein, voilà. Bon. Et c'est aussi très souvent du côté justement des précarités familiales, machin, etc. Ces familles qu'on dit démissionnaires, quoi. Bon, c'est qui ont des enfants qui font n'importe quoi. Bon, voilà. Hein, c'est les parents de la racaille, quoi. Hein, pour faire vite, quoi. C'est les parents des enfants dont on aime pas, on souhaite pas que ses propres enfants les fréquentent, quoi. Bon, pas ça, quoi. Bon, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. D'où, donc, voilà. Bon, tout ça, donc, voilà, c'est une espèce de définition floue, mais enfin, quand même relativement identifiable, de ce que c'est que, bah, ce qu'on veut pas, ce dont il s'agit de se démarquer. Donc, voilà, c'est le thème que rappelait Violaine tout à l'heure, de la stigmatisation des assistés ou des cassos, comme on dit, les cas sociaux, quoi. Bon, voilà, c'est une fracture sociale, donc, entre des intégrés et des exclus, entre des familles comme il faut et des familles à problème. Bon, avec tout ce qui va avec, une interprétation qui est plus souvent morale que sociale de ce déclassement ou de cette déchéance qui frappe les autres, quoi. Bon. Voilà, donc c'est bah, les cassos, quoi, c'est demander l'aumône, c'est pas bien quand même, quoi. Bon, enfin, on les perçoit en tout cas, vous voyez, moralement, dans ce registre-là, comme ils vont tendre la main à la mairie, quoi. Bon, quand même, ils n'ont pas la honte, quoi. Voilà, c'est moralement disqualifié, c'est aussi du côté des incivilités de la racaille qui, vous voyez, qui fout le bordel, quoi. C'est quoi ces parents qui savent pas s'occuper de leurs enfants, quoi. Bon, voilà, bon, voilà. Donc, voilà, donc. Premier aspect, donc, vous voyez, démarcation par rapport, voilà, au pôle précarisé, stigmatisé, etc. Mais, alors, ce que montre aussi Violaine, qui me semble très, très intéressant, parce qu'on a beaucoup moins dit, souvent, c'est aussi la stratégie de démarcation vers le haut, vers une partie du haut, quoi, et l'affiliation à l'autre, à un autre bout du haut, quoi. C'est-à-dire, c'est un rapport, là, en fait, complexe, hein, entre une façon de se tenir à distance de la domination des diplômés, pourrait-on dire, quoi, de la petite bourgeoisie intellectuelle, enfin de nous, quoi, bon, voilà, hein. C'est une façon de se mettre à l'écart par rapport à nous, de garder ses distances par rapport aux porteurs de culture légitime, hein, voilà, qui, bon, a à voir, je crois, avec une façon de tenter d'exister comme ouvrier, comme travailleur manuel, comme non diplômé ou pas très diplômé, mais sur un mode gratifiant, comment être ouvrier avec fierté. Au fond, alors, c'est un vieux problème, mais pas tout à fait nouveau, mais dont on voit qu'il persiste à sa manière, hein, sous une forme un peu inhabituelle, qui consiste aussi, je crois, à se démarquer, c'est ce qu'a montré Violaine, qui sont très intéressants. D'une part, donc, en affichant une certaine forme de distance, ou en tout cas de mise en question de la valeur de la domination culturelle, des diplômes, de l'école, là, etc., et d'autre part, en affichant sa proximité à l'envers, par rapport à des détenteurs de capital économique qui sont pas très loin, quoi. Ils sont pas très très loin de soi, ne serait-ce que parce qu'ils se situent dans le même registre de grandeur, pourrait-on dire, hein, une grandeur économique. Alors, il me semble être une chose tout à fait intéressante à mettre en évidence et que montre Violaine, ça me semble extrêmement original. Voilà, donc, une façon, donc, vous voyez, de se tenir à distance à l'égard des fractions diplômées des classes moyennes et de leur manière d'être, de leur style de vie, de leur ethos, à elles aussi, hein, voilà. Et une façon d'affirmer son propre ethos, dont je parlais tout à l'heure, mais qui tend à vous rapprocher, hein, de ces fractions à capital économique de la petite bourgeoisie, pour faire vite, quoi, voilà, pour des classes moyennes, quoi, avec voilà, des choses comme voilà, l'affirmation de la morale professionnelle, de la conscience professionnelle, de la revalorisation des métiers manuels et du technique, parce que c'est des métiers utiles, on ne peut pas leur donner tort, là. C'est en tout cas visiblement utile, avec les projets de mise à son compte, bon, de, vous voyez, d'accéder à l'indépendance, l'artisanat, au commerce, etc., monter sa boîte, bon, voilà, l'espoir d'accès à la maîtrise, etc. Bon, donc vous voyez, une voie de promotion dans un autre ordre de grandeur que celui des intellectuels, pour faire vite, quoi, hein. C'est aussi des profs et des instits, quoi, hein. Bon, voilà. Bon, donc voilà, c'est autre aspect qui me semble très intéressant et dont elle montre aussi, Violaine, les conséquences que ça comporte quant à des choses aussi importantes que les stratégies de scolarisation des enfants, qu'elle évoquait tout à l'heure, je ne vais pas la répéter, donc plus j'ai plus le temps. Voilà. Donc les stratégies de scolarisation des enfants qui privilégient la professionnalisation, qui ne négligent pas les filières professionnelles ou qui, au contraire, tendent à les revaloriser, etc. Voilà. Ce qui donne des gens dont on peut dire que, voilà, ils sont porteurs, j'arrive un tout petit peu au FN, ils sont porteurs de ce qu'on appelle une humeur de droite, voilà, parce que c'est comme ça dans le champ politique tel qu'il est, en France en tout cas, qui valorise la réussite économique, la réussite, et le mérite individuel, qui voit d'ailleurs qualitativement dans le chômage, par exemple, un problème individuel, c'est que, bon, voilà, s'il est chômeur, c'est que vraiment, il veut bien, quoi, il est un feignant. Bon, quand on veut, on peut, c'est cette morale-là. La définition, donc, la défense des formations professionnelles et des métiers manuels contre les métiers intellectuels, du privé contre le public, etc., parce que c'est présenté souvent comme un corollaire, qui chante les mérites de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, qui va défendre aussi, le point de vue du patronat, il faut quand même que les boîtes, elles puissent tenir, la bonne santé des entreprises, puis je sais que c'est pas facile, machin, etc. Bon, voilà. Quatrième point, très vite. Là, dans ces problèmes de ces luttes de classement, la superposition qui s'établit petit à petit dans les esprits, je crois, entre la question sociale, la question spatiale et la question raciale. Quoi. Je pense que voilà, il y a une espèce de superposition qui s'établit dans la carte, en quelque sorte, hein, qu'on se fait chacun de l'espace social, qui consiste non seulement à adopter une lecture spatiale des questions raciales, des questions sociales, mais aussi une lecture raciale des questions sociales et spatiales, quoi. Vous voyez ? Bon, voilà. Alors, sous ce rapport, Violaine montre, et ça me semble aussi tout à fait intéressant, l'aspect de construction d'un entre-soi populaire blanc, périurbain, voilà. C'est la fermeture de l'espace résidentiel, quoi. Bon, on construit en quelque sorte un entre-soi, quoi. Bon, voilà, un peu comme, je sais pas, à Neuilly, on construit aussi un entre-soi, mais vous voyez, c'est au-dessus, quoi. Bon, je pense au travail des pinsons, enfin, le premier travail des pinsons, c'était un beau livre, ça s'appelait Dans les beaux quartiers. Enfin, c'était mieux que les suivants, à mon avis. Bon, le premier qui montrait justement cette construction d'un entre-soi des classes dominantes. Voilà. Bon. Je passe. Et cinquième point de ces classements, de ces luttes de classement, ben je crois que bon, on peut comprendre le vote FN comme un aspect, voilà, un aspect de ces luttes de classement dans le champ politique. Voilà. Alors, Violaine montre que, sans surprise, quoi, que bon, voilà, on est dans les classes populaires quand même, donc une participation intermittente au jeu politique, une attention oblique et distanciée par rapport à la vie politique. C'est pas des fanades de la vie politique, quoi. Bon, ils sont pas les yeux rivés sur le journal et sur les infos. Les taux d'abstention très 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 élevés, la défiance aussi, bon, croissante, mais c'est très banal, quoi. Bon, à l'égard des responsables politiques, la vision morale aussi des hommes politiques, on les regarde du point de vue de leur comportement personnel et pas de leur comportement politique, l'affaiblissement bien sûr des structures syndicales, la perte de cohésion des collectifs de travail, les tausses de droite dont je parlais tout à l'heure évidemment et qui bon voilà facilitent plus facilement à valoriser l'argent contre la culture, l'individuel contre le collectif, c'est l'effet patrimoine aussi bien connu. Voilà, la difficulté d'une identification collective à la condition ouvrière ou à une condition de salarié subalterne. La déception aussi par rapport au parti classique, bon, qui me semble un dernier truc tout à fait important. Sans doute aussi les effets propres de la dégradation économique et sociale d'une fraction des classes populaires, bien réelle, pour le coup, hein, une véritable dégradation, avec des tas de conséquences qu'elle comporte pour ceux qui vivent avec. Tu vois. Bon, ça, je pense que c'est une autre question tout à fait importante aussi, qu'on ne veut pas voir, vu de très loin, on ne veut pas trop savoir ce genre de choses, vu de plus près, c'est plus compliqué. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai parlé très vite du vote FN in fine, mais parce qu'au fond, il me semble que... Voilà, je veux dire, j'ai inversé ce que je disais au début, quoi. Je disais, c'est pas tant un livre sur le vote FN, et... Peut-être que si, au fond. Peut-être que si, parce que si on veut comprendre, à mon avis, le vote FN, il faut faire tout ce travail, voilà, hein, qu'a fait Violaine dans ce livre, qui finalement rencontre sans doute beaucoup mieux, au fond, de ce vote, qui est difficile de qualifier en un mot, donc je vais m'en abstenir, mais qui, je crois, ne se comprend que dans ce contexte beaucoup plus général, qui fait tout le mérite du livre de Violaine. Voilà, j'ai dépassé 2 minutes. Je suis désolé.